C'est l'histoire de la chance de ma vie. J'ai peur de l'amour car il trompe, il trahit et me déçoit. J'ai peur de la vérité, tout le monde ment. J'ai peur du futur, on ne sait pas s'il y aura des guerres. J'ai peur de l'eau, la crainte de la noyade. J'ai peur de la confiance, il faut la vérité pour empêcher d'avoir des secrets. J'ai peur du faux, les flammes détruisent la vie. J'ai peur de l'union, il faut de l'amour pour aimer les autres. J'ai peur de la pensée, parfois elle est mauvaise, négative. Je n'ai pas peur du vent, de l'engagement, c'est rassurant. Je n'ai pas peur du chemin de la vie, parce que j'ai grandi avec. La chance est avec moi.
Merci, Lamis. Alors, tout à l'heure, quand tu as lu ce récit, Lamis, tu disais que c'est un récit qui t'avait touché.
Oui.
Pourquoi ?
Parce que, je sais pas. Ça, j'aime bien. Parce que, par exemple, j'ai peur du feu, moi, par exemple. Pour que, genre, si je touche le feu, ça m'enflamme, logiquement. L'amour aussi. Parce que il peut me tromper ou me trahir ou me déçoit. C'est pareil pour la confiance. Il peut être égoïste ou autre chose. Bon, après, voilà.
Pour moi c'est aussi pareil, mais on a pour
pour tu veux poser une question sur
oui,
quoi
sur le texte, mais j'ai oublié ma question par hasard.
Ta question va revenir après. Audrey ou Soraya, vous avez une question peut-être ? Et vous ?
Pas spécialement. Est-ce que la personne, quand elle a raconté, est-ce que c'est une personne qui l'a fait, ce petit paragraphe ?
Alors, c'est elle qui l'a fait. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, d'ailleurs, c'est une bonne question, parce que justement, c'est pas, au départ, on ne travaillait pas avec des mots. Elles ont choisi des dessins. D'ailleurs, il y a une exposition qui est au CDI. Et donc, au CDI, eh bien... Il y a d'abord les dessins. Et chaque dessin, par exemple, il y a un dessin qui représente la confiance, le couple. Il y a un dessin qui représente l'amour. Il y a un dessin qui représente le vent, un dessin qui représente le feu. Elle a choisi les dessins comme ça, au départ. Et après, elle a dit pourquoi elle avait choisi. Alors, quand on lui a demandé pourquoi le feu, elle a dit parce que j'ai peur du feu. Et il y avait beaucoup de peur, en fait, qu'elle exprimait au départ. On l'a entendu, hein. J'ai peur du feu, j'ai peur de l'eau, j'ai peur de l'amour. Donc, elle a exprimé toutes ses peurs, au départ. Et après, à la fin, elle a dit « Je n'ai pas peur du vent ». Et il y a un dessin, c'est une étoile, comme ça. Hein, c'est trois traits qui se croisent, qui s'entrecroisent au milieu. Et donc, cette étoile, c'est la chance. Et elle a dit « Voilà, ça, c'est l'étoile de ma chance. Parce que moi, j'ai la chance de ma vie. » Donc, c'est elle, en disant ça, en le disant, elle l'écrivait après. Et donc, ce texte, il est né, eh bien, à partir de ses réponses, elle l'a écrit. Après, elle l'a réécrit et en classe, ils l'ont justement, on dit validé. Ils ont dit, d'accord, voilà, c'est le texte de mon dessin. Et chaque élève de la 5e SECPA a fait la même chose. Et il y a des textes très, très, très forts. Hein. Ils ont été donnés ce matin au CDI. Il y a vraiment des textes puissants, d'émotion et de ce que disent ces jeunes gens hein, qui ont votre âge à peu près.
J'ai une autre question.
Oui.
Quand elle a fait les dessins ou quand elle a raconté,
oui.
Est-ce qu'elle avait des émotions particulières ?
Alors, c'est intérieur, tu réfléchis en fait. Tu vois, par exemple, quand elle parle du feu, elle dit « j'ai peur du feu ». Donc elle pense au feu, elle pense à plein de choses. Et elle dit, après t'as vu, alors on lui a dit « pourquoi tu as peur du feu ?» Elle dit « parce que c'est le feu qui détruit tout et à un moment elle dit « j'ai peur de la guerre ». Donc elle associe la guerre et le feu. Donc tu vois, c'est des choses qu'elle a pu dire en fait. Et à chaque fois, on pose la question, pourquoi ? C'est comme si toi, tu me disais, j'ai choisi le pardon, je te demanderais pourquoi ? Et tu me dirais, parce que c'est important de pardonner, je te demanderais pourquoi ? Tu me diras, parce que justement, moi... Et là, tu pourrais raconter des choses, voilà, qui, Donc c'est vraiment toute une réflexion. Et on dit avec les symboles, tu creuses à l'intérieur de toi. Tu apprends à te connaître. Voilà.
Ok. Pour les symboles, est-ce qu'il m'a un qui un petit peu reflète la une colère, pas envers quelqu'un mais envers quelque chose?
Ben, le feu, ça peut être la colère, la rage, puisqu'il y a un garçon qui l'avait choisi pour parler de la colère et de la rage. Après, il y a un symbole qui représente la dispute. Il y a des symboles qui aussi sont liés au manque de confiance, des choses comme ça. Donc, la colère, c'est une émotion. Hein. Elle n'est pas exprimée par un symbole en particulier. Elle va être dans la parole aussi, ou par exemple du manque de lumière quand on est dans l'obscurité, on est dans la colère, il y a quelque chose qui ne va pas, qui a du mal à sortir. Donc ça, ils l'ont très très bien exprimé, les jeunes de votre âge, parce que la colère, vous connaissez. Vous connaissez la colère, et parfois elle vous emporte, vous perdez le contrôle. Donc ça, c'est des choses qui sont beaucoup exprimées par les jeunes, hein, au collège. Oui.
Alors, ce jeune a parlé de peur, de la peur.
C'est une jeune fille.
Une jeune fille.
Oui.
Dit « j'ai peur » et après « je n'ai pas peur ».
Oui.
Est-ce qu'il y a des graines de mémoire qui ne peuvent pas être semées comme ça, par exemple, à la radio ou au collège, par exemple, vous devez prendre beaucoup de précautions, avec lesquelles vous devez prendre beaucoup de précautions?
Oui, parce qu'il y a des récits, par exemple, qui sont très durs et qu'on ne peut pas donner à n'importe qui. Moi, je ne donnerais pas à un enfant, par exemple. Et en même temps, si on doit le donner à des jeunes, c'est possible, mais il faut les accompagner, donc ça doit être un travail fait avec les enseignants.
Donc, ce genre de graines, vous pensez que c'est essentiel de les garder, de les collecter, de les semer?
Alors,
même si c'est dur.
Oui, oui, parce qu'au départ, justement, c'est pas moi qui ai décidé. C'est un travail collectif et on s'est posé la question. Et la personne, d'ailleurs, qui a raconté ces récits, voulait absolument, elle, qu'il y ait des graines. C'est-à-dire que c'est une demande vraiment importante. La personne a dit, moi, je veux qu'il y ait des graines comme les autres, parce que mon histoire, elle est forte, elle est dure, oui. Mais il faut que d'autres entendent ce qui m'est arrivé, parce que cette histoire-là, elle doit être utile à d'autres. Au moins, ça serve aux autres, même si moi, j'ai connu beaucoup de malheur. Donc, c'est une volonté très forte, déjà, de la personne. Après, nous, qu'est-ce qu'on fait? On dit oui ou on dit non? Donc, on a fait un choix collectif de dire oui. Après, évidemment, moi, dans l'écriture des graines, il y a des détails que je n'ai pas mis parce qu'ils étaient trop crus, trop violents. Néanmoins, les graines, ces graines-là, il y en a trois qui sont liées vraiment à ce récit, à cette personne, hein, trois récits, trois graines différentes. Eh bien, on les sèmera avec beaucoup de prudence. On ne va pas les mettre, les mélanger comme ça avec les autres, parce qu'il y en a qu'on peut prendre comme ça, mais celle-ci, je dirais non.
Vous avez une question, les filles?
Pourquoi des couleurs vives?
Alors, on en a parlé tout à l'heure. C'est pour que ça attire la curiosité, que ça donne envie aux gens de les prendre, de les voir, d'ouvrir la graine, en fait. Une fois qu'elle est ouverte, c'est comme si on mettait un petit peu d'eau dessus. Soraya,
Est-ce que dans les collèges, là où vous allez mettre les graines, vous allez séparer celles avec celles faites pour les enfants et celles où il y a plus de violations pour les enfants?
Alors, il n'y a pas de violations, mais celles qu'on juge dures, on va dire... Celles-là, on va les mettre de côté, on ne les mettra pas au collège. D'ailleurs, ce matin, au collège, ces graines-là n'ont pas été distribuées. Elles ont été remises à des enseignants. Parce qu'on a dit que ça peut être intéressant pour des quatrièmes ou des troisièmes. Sur, justement, des débats ou des réflexions qu'on peut avoir avec les élèves. Ça peut être un outil très intéressant. Donc là, c'est les enseignants qui décideront de le faire ou pas de le faire. Parce que ça se prépare. Tu racontes pas une histoire comme ça n'importe comment. Il faut vraiment qu'il y ait un travail de préparation. Par contre, c'est possible de le faire. Par contre, pour des sixièmes et des cinquièmes, je dirais non. Ça, ils me paraissent trop jeunes. Alors en dessous, évidemment, encore moins.
Comment vous avez trouvé l'idée de mettre des couleurs sur les papiers?
Au début, je faisais sur du papier blanc, tu vois. Et puis, en fait... Au début, j'étais un peu perdu parce que tous mes papiers blancs, ils se ressemblaient trop. C'est comme s'il n'y avait qu'une seule graine, alors qu'en fait, il y a tellement de graines différentes. Et c'est un drôle de hasard parce qu'une fois, j'ai dû faire des photocopies et puis il n'y avait plus de papier blanc. Donc moi, j'ai pris les papiers qu'ils avaient et je me suis retrouvé à mettre des papiers colorés et je dis, mais c'est bien, c'est joli. Et puis tout d'un coup, on a envie de, tu vois, ça attirait les gens, les gens, ils voyaient les couleurs. Alors je les mettais dans les poches, je les mettais accrochés à des fils, on aurait des petits drapeaux. Et donc l'idée, elle est restée et après je l'ai cultivée, c'est-à-dire que maintenant, c'est devenu une obligation. C'est-à-dire que, alors j'ai fait des projets dans toute la France et partout. Il y a l'idée de prendre des graines de couleurs vives et qui ait au moins 5, 6, 7 couleurs. Ça dépend ce qu'on peut trouver comme papier. Mais maintenant, partout, on met des graines de couleurs.
Est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà, qui ont déjà critiqué ou jugé votre travail ?
Alors, critiquer, ça, tu veux dire de façon négative ?
Oui.
D'accord. Parce que critiquer, ça peut être... de façon positive. Donc moi j'ai eu des critiques très très positives, au contraire. De façon négative, très rarement. Je dirais alors par rapport aux personnes qui donnent leur parole, ça m'est jamais arrivé. Il y a eu des fois des discussions, on a dit pourquoi, si on le faisait, si on le faisait pas. Et après j'ai eu beaucoup d'échanges avec des gens justement qui des fois disent mais il y a des histoires, est-ce qu'on doit partager toutes les histoires ? Donc ça pose des questions, et moi c'est mon but, je suis un artiste, et je pense qu'on doit poser des questions. On ne doit pas se contenter d'attendre notre société, c'est nous qui la construisons, vous êtes vous, des futurs adultes, vous allez avoir des responsabilités, et tout ça, eh bien ça nous apprend des choses. Donc c'est une autre façon d'apprendre, de transmettre. Et après c'est important même que tu aies des gens qui soient en désaccord, ça permet de discuter. Le but, c'est pas qu'on soit d'accord sur tout, mais à partir du moment où on peut discuter, ben, ça veut dire qu'on peut s'entendre. Alors, on va peut-être passer justement au récit de deux jeunes filles. Les deux... Alors, tout à l'heure, on a entendu deux jeunes filles. J'étais un peu plus loin, dans le même parc, et il y avait un banc. Et sur ce banc, ben, deux jeunes filles un peu plus âgées, pareil, je leur ai raconté un petit conte. Elles étaient très timides au départ, et elles ont accepté ensuite de raconter leur histoire.
Moi, j'habite à Beaumont.
Moi, j'habite à Persan.
On se connaît depuis toute petite. Notre amitié est née à Beaumont car on habitait toutes les deux là-bas avant.
C'est une amitié de longue date.
On a toujours été amis et cela représente beaucoup pour nous deux. On est toujours là l'une pour l'autre. S'il y a un problème, je sais qu'elle est là.
C'est vrai aussi pour moi.
Nous sommes plus fortes avec cette amitié. Nous arrivons dans l'âge adulte et on va dire qu'on a bien grandi. Quand on se refait le film de nos vies, on peut dire qu'on a bien évolué. On a bien grandi aussi grâce à l'école où on a appris des choses.
Ce n'est plus comme avant, quand nous étions enfants, nous étions plus insouciantes.
On a plus de responsabilités par rapport à plein de choses, à notre famille, par rapport à nos projets d'avenir aussi. On a déménagé, mais on ne s'est pas quitté et on est toujours ensemble.
Là, on parlait du virus, il n'y a plus que ça en ce moment. On n'était que ça. On a vécu sans se voir en vrai depuis 4 ans à cause du virus. Aujourd'hui, c'est la toute première fois qu'on se revoit depuis 4 mois. Il y a beaucoup d'émotions à se revoir.
On se parlait au téléphone, on s'envoyait des messages, mais ce n'est pas pareil.
Ça nous fait bizarre de se revoir en vrai avec les téléphones. On se parlait... Mais il y avait une barrière.
On était contente de se retrouver dehors après 4 mois. Mais ça fait bizarre, car on n'a pas le droit de se toucher, de s'embrasser. On n'ose pas trop s'approcher. On n'a jamais vécu comme ça. On se parle sur ce banc.
On a grandi ici, on est jeune, mais on a vu que tout a changé. L'environnement, les gens, la ville a changé. Mais les gens aussi ont beaucoup changé. Il y a du positif et du négatif. Le négatif, c'est que les gens sont beaucoup plus méfiants. Il y a des problèmes de confiance. On vit derrière des écrans et ce n'est pas la même chose que de voir la personne, d'être plus elle, avec elle. Ce n'est plus comme avant. Maintenant, on a peur et on est dans la peur.
Pour Persan, pour la ville, pour la vie, il faut une parole pensée que tout le monde peut entendre. J'aimerais qu'une personne d'ici s'exprime avec une parole vraiment construite et que toute la ville l'entende. Mariam, 18 ans,
et Elfie, 17 ans.
Merci. Alors c'est vrai que ces deux jeunes filles, c'était très drôle de les voir parce qu'elles étaient vraiment séparées sur le banc. Il y avait ces grands bancs. Une était à un bout et l'autre complètement à l'autre bout. Elles ne savaient pas comment... Elle savait pas comment elle pouvait justement rester s'approcher sans s'approcher. Elles étaient vraiment gênées, quoi.
Les filles, oui. Une question. Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans?
Non.
Elles sont peut-être un peu plus. Elles sont plus grandes.
Oui, elles, elles sont. Elles pensent à leur avenir. Hein. Elles disent 17, on n'est plus dans l'insouciance, on n'est plus dans l'enfance. Soraya?
Est-ce que quand vous, vous avez parlé avec eux, elles ont tenu à avoir la distance avec vous et elles?
Ah oui, on fait attention, mais en ce moment, même ici, on fait attention, il y a les masques, il y a les gestes barrières, donc on doit être dans cette prudence, hein, et donc c'est normal. Donc là, mais il n'y a pas eu de problème pour parler. Après, on était donc à plus d'un mètre hein, les autres des autres en extérieur, et à l'époque, il y avait les masques qui n'étaient pas obligatoires. D'ailleurs, je tiens à le signaler, au mois de mai. Et donc, on respectait les distances en extérieur, simplement.
J'ai une autre question.
Oui.
Est-ce que, quand elles ont raconté leurs histoires, ça a été un peu émotif, parce que quand elles étaient petites, elles étaient toujours accrochées, et que quand elles se sont revues après 4 mois de distance, bah, elles ne pouvaient plus se toucher, elles ne pouvaient plus rien faire.
Tu l'as bien exprimé, hein, c'est tout à fait ça. C'est que, en fait, elles avaient envie, vraiment, comme deux amies, de se faire un bisou, de se toucher, mais elles n'osaient pas et ne savaient pas si elles pouvaient le faire. Donc c'était très dur pour elles de se rendre compte que elles étaient là, mais en même temps il y a une chose qui n'était plus possible, il y avait une barrière entre elles. Et ça, c'est une souffrance.
Et quand depuis 4 mois quand ils sont pas revus, pour eux, est-ce que ça faisait comme si ça faisait depuis, je sais pas, moi, 20 ans?
Ben oui, parce qu'elles n'avaient pas l'habitude. Donc toi, si tu es séparé de quelqu'un qui est ton ami, et tu as l'habitude de le voir, on va dire, tous les jours ou tous les deux jours, et que tout d'un coup, on t'oblige à ne pas le voir, ben la séparation va créer un manque, et ce manque, tu as l'impression qu'il dure depuis très très longtemps. Donc il y a vraiment cette moi je dis souffrance parce que c'est vrai que ça l'est. Et voilà, elles l'ont très bien exprimé, je trouve. Et je trouve que d'ailleurs, elles ont un propos très mature. Elles ont 17-18 ans. Elles parlent aussi de cette idée de méfiance qui grandit. Et là, avec le confinement, ben, ça nous sépare encore plus les uns des autres. On le ressent hein, énormément. Donc je crois que c'est important, cette parole. On doit réfléchir à ce qui est en train de se passer pour pas se déshumaniser. Et vraiment, vraiment être dans voir comment on peut continuer à faire des projets comme aujourd'hui, mais par la radio ou d'autres façons, peu importe. Il faut aller les uns vers les autres.
Et pour eux, là, avant confinement, est-ce que pour eux, porter un masque, ils ont pour eux. Être obligé de porter un masque ou bien être obligé à faire quelque chose qu'ils ne voulaient pas faire. Pour eux, est-ce que c'était... Désolé pour ça. Mais est-ce que c'était un petit peu chiant ou pas?
Alors, c'était difficile. Et de toute façon, personne n'a le choix hein, de porter un masque. Donc, les gens, ils le font parce qu'ils pensent que c'est important de se protéger et de protéger les autres. Maintenant, je crois que justement, moi, je n'ai pas du tout envie de parler uniquement de ça parce qu'on ne parle que de ça en ce moment. Et je crois qu'il faut pouvoir parler d'autre chose, de sortir de ce piège, de finalement croire qu'il n'y aurait que ça. On a vraiment plein d'autres choses à partager et notamment toutes ces histoires qui restent là et qu'on peut partager avec ou sans masque hein, là-dessus.
Pendant chaque lecture de Graines de mémoire, on a l'image. En fait, là, pendant cette lecture, moi, je les voyais bien sur le banc, les deux jeunes filles. Par exemple, ce matin, lorsque vous étiez au collège, après chaque lecture, quel a été le ressenti du public?
C'est délicat, parce que parler pour les gens, c'est toujours un jugement. Donc moi, ce que j'ai ressenti, c'est qu'il y avait de l'émotion dans la salle, de l'étonnement, parce que les paroles des jeunes, justement, on n'a pas l'habitude d'entendre des jeunes de 5e s'exprimer avec autant de force, de gravité. je dirais même de philosophie, de poésie, parce qu'il y a, un garçon qui raconte que plus tard, il aura un bébé et qu'il l'appellera papa et que le vent l'emportera. Donc, il y avait des expressions qui sortaient qui sont très, très belles, qui sont naturelles, parce que justement, on n'est pas passé par l'écrit au départ, on est vraiment passé par ce travail d'oralité, de liberté de la parole. Et donc, il y a eu cette émotion partagée des adultes et comme des jeunes qui étaient très très fiers, d'ailleurs ils l'ont dit, que leurs œuvres soient montrées à tout le monde et en plus leurs paroles. Par contre, ils avaient très 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 peur. Il y a vraiment une peur de qu'est-ce que l'autre va penser de moi. Et on voit bien qu'on vit dans cette peur aujourd'hui qui grandit. En plus, tout à l'heure, on était en train de préparer l'émission. Bon, ben, on a parlé un peu avec les jeunes filles des téléphones. Et la peur d'être filmé quand je fais quelque chose, si je me trompe, les autres vont se moquer de moi. Et cette peur, elle nous sépare. C'est une peur qui est présente aussi. Donc là, je crois qu'ils ont franchi aussi, comme si on franchissait une étape ensemble. Donc c'est vrai que je crois qu'il faudrait pouvoir le faire souvent. Et ça donnerait de la confiance et de l'entraide, de la solidarité aussi.
La lecture que j'ai faite tout à l'heure de Élise. Vous disiez que elle avait dit que elle avait pas grand chose à raconter et du coup on a eu un très beau texte. Elle a eu du mal à se livrer, cette dame, un peu peut-être.
Oui, alors.
Parce que par exemple, par rapport à ce texte-là de Mariam et Elfie, on sent que c'est naturel. Elles se sont livrées facilement. Hein.
Voilà, ils ont parlé librement. En plus, elles étaient très heureuses de parler, comme elles le disent, après 4 mois sans voir personne. Donc ça, c'était... Alors la première personne, comme vous dites, bon, Élise, ben, elle ne savait pas trop, parce que c'est ce qu'elle dit. D'habitude, on ne lui demande pas ce qu'elle pense. Et donc, elle était dans une situation nouvelle. Et petit à petit, donc moi, je me suis intéressé, j'ai pris le temps. Il y a eu 1h30, on était tranquille. Et tout doucement, les choses, elles sont sorties sur l'enfance, sur la vie, sur les fêtes, sur ce qu'on aime. C'était une discussion très libre. Et à chaque fois, ça a été une discussion très, très libre. Il y a eu vraiment des rencontres très, très simples. Hein, c'est simple.
Mais vous avez une très bonne approche, Ludovic, depuis une vingtaine d'années que vous faites ce travail. Vous êtes toujours bien accueillis. Au moment de la collecte.
Oui, alors ça, c'est toujours pareil. Quand on monte les projets, les gens qui organisent pensent que... Ben, ils se disent, mais les gens, ils vont pas vouloir, ils sauront pas. Alors qu'en fait, je dis, mais ayez confiance. Les gens ont plein de choses à dire. Après, il faut y aller nous-mêmes en étant dans l'envie de les rencontrer. C'est surtout ça. Si moi, j'ai vraiment envie de rencontrer quelqu'un, si j'ai vraiment envie d'écouter, la personne va le sentir. En plus, moi, j'écoute avec mon cœur. Donc, c'est vraiment l'endroit où on écoute le mieux. Je suis pas là pour écouter avec ma tête. J'essaye vraiment d'écouter la personne qui est là. Et je sais que des fois, il y a des trésors. Il y a vraiment des trésors de vie. Même dans des histoires très dures, c'est un trésor pour moi. Parce que ça va m'apprendre beaucoup. En Afrique, on dit plus précieux que l'ambre, le diamant, l'or et l'argent, plus précieux que tout, c'est le savoir. Parce que le savoir, il durera toujours. Et en plus, il grandit plus je le partage. Donc, c'est cette idée-là. Moi, je crois qu'il y a un grand savoir dans la parole des gens. Et il faut aller le chercher et donc se mettre à l'écoute. Alors après, il y a un gros travail, hein, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Moi, sur un enregistrement d'une heure et demie, je vais travailler une dizaine d'heures pour retranscrire le texte et le mettre en cohérence, pour voir vraiment écrire des récits, puisque j'enlève toutes les questions. Ce n'est pas un travail journalistique, puisque je fais une méthode de retranscription au départ, et puis après, d'écriture de récits, qui est plutôt un récit comme une histoire qu'on raconte.
On fait une dernière lecture, la vôtre, avec vous, Ludovic.
Alors, justement, parmi les personnes que j'ai rencontrées, il y a une personne, justement, qui m'a été amenée, parce qu'on a travaillé avec plusieurs partenaires, et donc notamment un centre qui s'occupe des gens en difficulté sociale ou des gens qui sont liés à des problèmes de papier. Et donc là, c'est un jeune homme au départ qui est arrivé, qui a accepté de me rencontrer. Et donc, d'ailleurs, il a dit, on apprend beaucoup en écoutant l'autre, c'est la vérité. Et donc, ce jeune homme s'appelle Jibi, et voici son histoire. Le titre de l'histoire, c'est « Ce que j'ai vécu ». La mémoire représente pour moi toutes les choses que j'ai vécues au Sénégal avant de venir ici. Ce sont aussi toutes les choses que j'ai vécues comme immigrant, tout ça. Mon père est décédé au Sénégal en 2012. On était 4 enfants à la maison. Quand mon père est mort, j'étais en 4e. Mon père n'était plus là, ma mère ne pouvait pas se débrouiller et j'ai dû arrêter l'école. Comme mon grand frère était malade, c'est moi qui ai pris la place de l'aîné. J'avais pas le choix. J'ai décidé qu'il fallait tenter quelque chose coûte que coûte pour aider ma mère. Il n'y avait pas de solution au Sénégal, alors j'ai décidé de partir pour trouver un travail, gagner de l'argent pour aider ma famille. En Afrique, on sait que c'est très difficile. C'est très dangereux de partir et de passer par la mer. On risque notre vie. On sait ça. On risque sa vie pour la famille. J'ai quitté le Sénégal. Ma mère n'a rien su, sinon elle n'aurait jamais voulu. J'avais 14 ans et demi. Il faut beaucoup de courage pour partir. Mais il faut de l'argent aussi pour réussir. Il faut minimum 1 000 euros quand ça se passe bien. Sur la route, il y a des gens qui volent, des gens qui nous magouillent. Heureusement, il y avait d'autres hommes qui étaient partis du Sénégal. C'était comme nos aînés et ils nous ont donné les bons conseils. Je suis parti seul du Sénégal pour la Libye, de la Libye vers l'Italie et après la France. Du Sénégal vers la Libye, on est passé par la terre. J'ai mis 1 mois. On est parti d'abord en voiture à plusieurs pour le Burkina. Du Burkina, je suis parti pour le Niger. Puis du Niger pour la Libye. J'ai attendu 3 semaines avant de pouvoir partir de Libye. En Libye, c'est là-bas le problème. C'est là-bas où c'est le plus difficile. Il y a des choses qui sont trop délicates et que je ne veux pas raconter. Non ! De la Libye vers l'Italie, on est passé par la mer. On a pris des pneumatiques, des bateaux gonflables. On était 110 dessus. Il y avait des hommes, mais aussi des femmes, des enfants. On était entassés partout, dessus, sur les côtés. Sur la mer, il y avait la peur. On n'a pas eu de problème, heureusement. À la fin, un grand bateau nous a récupérés. En Italie, j'ai pris un train pour arriver ici en France. Je suis parti du Sénégal fin 2013 et je suis arrivé en 2014 en France. C'est un parcours délicat. J'ai eu la chance d'échapper au pire grâce à Dieu. C'était très très dur, mais voilà, je suis là. Je vis chez un cousin, à Persan. J'ai réussi à reprendre mes études et j'ai eu mon bac. Mon objectif, c'est de trouver un travail, de gagner de l'argent pour aider ma famille et de pouvoir repartir là-bas pour les revoir. Aujourd'hui, le problème des papiers, c'est ce qui m'empêche d'avancer. Un bout de papier te bloque la vie. Même si tu as un diplôme, si tu n'as pas de travail, si tu n'as pas tes papiers, ça ne sert à rien. C'est la première fois que je raconte ma vie. Il y a des choses que j'ai dit que je n'avais racontées à personne. On apprend beaucoup en écoutant l'autre, c'est la vérité. J'ai des potes qui sont nés ici, qui ne savent pas quoi faire, qui n'ont pas de but. Et j'ai un pote qui connaît ma situation et il me dit « Tu as beaucoup de courage. Je vois des personnes qui sont nées ici, ils n'ont pas de problème de papier comme toi, mais ils ne veulent pas travailler, ils n'ont pas de but, ils n'ont rien à faire de leur vie. » Derrière moi, il y a mon passé, ce que j'ai vécu, là où je suis passé. Devant moi, il y a le chemin que je veux suivre. Mon but est là. C'est comme dans le foot. Il faut avoir un but. Et la vie, c'est donnant, donnant. Seul le travail paye. Voler, dealer, non, non, non. Sinon, ta vie va finir d'un seul coup. Il faut éviter ça et pour ça, il faut bosser, avoir de l'ambition. Pour ça, il ne faut pas rester seul. Il faut aider les autres. Ici, je suis là pour aider ma famille, ma mère, mes frères, ma sœur. Je suis leur soutien. Dès que je me lève, je pense tout le temps à trouver des solutions pour aider ma famille. C'est ce qui tourne tout le temps dans ma tête. C'est ce qui me donne le courage. Ce qui me donne la force, c'est ma maman. Je l'appelle toutes les semaines. Même si ici, c'est la galère, si c'est très dur pour l'argent, pour le travail, pour les papiers, je ne lui raconte pas tout. Je lui dis que tout va bien. C'est la maman et je ne veux pas l'inquiéter. Elle me donne de la force avec ses paroles. Ma maman, c'est ma protectrice. Elle prie pour moi à la fin de chaque fois où je l'appelle pour me protéger. Elle me dit tout le temps « Quand est-ce que je vais te revoir ?» Depuis 2013, je ne suis pas retourné au Sénégal. Mon ambition, c'est de réussir à avoir mes papiers, de gagner un peu d'argent et de pouvoir retourner 1 ou 2 mois au Sénégal pour retrouver ma maman. La maman commence à vieillir. Avec la vie, on ne sait pas du tout quand est-ce qu'on va mourir et il faut tout faire pour que je retourne là-bas. Jibi, 20 ans.
Waouh. Les filles sont restées silencieuses. Très belle lecture, Ludovic. On sent beaucoup de courage. Ce jeune homme est très courageux.
Oui.
Juste le fait d'avoir raconté son histoire, c'est courageux de le faire. Les filles, vous avez une question ? Avant que Ludovic s'en aille, Iba.
Du coup, en fait, quand il a dit depuis
2014, il est arrivé en 2014, je crois, c'est ça ?
Depuis oui. 2013 à 2014, mm-hmm. Il essayait de partir sans que sa mère le sache.
Ben, mais il est parti, il avait 14 ans, il ne l'a pas dit à sa maman parce que sa mère l'aurait empêché. Et lui, il voulait aider sa famille, donc il l'a fait en cachette. Il a été aidé parce qu'il n'avait pas cet argent non plus, donc des gens lui ont prêté de l'argent, lui ont dit « vas-y ». Et ils ont caché ça à sa maman. Et lui, depuis qu'il est en France, dès qu'il gagne un peu d'argent, parce qu'il prépare un BTS actuellement, ça vous ne le savez pas, ce n'était pas dit, eh bien, il travaille dans une société qui lave le linge, donc il essaie de travailler en dehors de son travail de BTS, de gagner un peu d'argent. Des fois, il travaille dans un restaurant, on va dire, bon, je vais dire un McDo, quoi, mm-hmm. Et il gagne un peu d'argent. Et cet argent, il économise surtout pour pouvoir envoyer une petite somme à sa famille là-bas. Soraya ?
Moi, j'ai une question. Quand il est parti de 2013 à 2014, il ne s'est rien passé de mal, il a réussi à partir ou il y a eu des inconvénients ?
Est-ce que tu as entendu le moment où il a crié non ?
Non.
Il a crié un moment, il a dit « il y a des choses qui sont trop délicates et que je ne veux pas raconter » et là tout d'un coup il a crié non. Et quand il a... Moi j'ai retranscrit, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose sans doute de dur. Il voulait pas le raconter, par contre il l'a vu et il a crié non pour fermer la porte. Donc ce souvenir est trop dur pour lui. Et beaucoup de migrants qui passent, notamment c'est ce passage de la Libye ou par le Maroc, hein, puisque y a... et où il y a beaucoup de violences qui sont subies par les femmes et par les hommes.
J'ai une autre question.
Oui.
Quand il est parti de chez lui, enfin quand sa mère ne le savait pas, elle n'a pas essayé à le rechercher, enfin elle n'a pas envoyé, elle n'a pas appelé la police, enfin si elle pouvait.
Alors évidemment, il est parti et après il a averti. Alors son frère était au courant et ils ont dit à la mère, mais après, une fois qu'il était parti, si la mère l'avait su avant, elle l'aurait empêché. Mais comme elle n'a pas pu le savoir avant, elle n'a pas pu l'empêcher. Et lui, quand il est parti, ben voilà, il a tenu après sa famille au courant quand il a pu téléphoner notamment. Mais elle, c'était trop tard, elle pouvait plus le retenir. 14 ans, c'est jeune, hein, c'est presque votre âge. Hein. On va bientôt s'arrêter.
Ludovic, merci d'être venu au studio d'Alternative FM, nous livrer les graines de mémoire. Quand est-ce qu'on pourra vous retrouver sur la ville de Persan ?
Alors j'espère que justement le programme, le projet va pouvoir se développer comme prévu. Alors il y a des rendez-vous qu'on a imaginés pour des entretiens et pour des cercles de parole. Alors en collège c'est déjà calé, c'est au mois de mars hein, où je reviens. Au mois de mars je dois revenir aussi à la MJC pour faire des rencontres avec des groupes d'adultes pour des paroles de vie d'adultes et des entretiens de collectage comme ceux que j'ai déjà fait, mais avec d'autres personnes évidemment. Et l'idée c'est qu'à partir du mois de mai, au printemps, il puisse y avoir des graines qui sont semées, des comptes qui soient semés en extérieur et sans doute aussi cet été. Tout dépendra évidemment du contexte, hein. On sait bien. Mm-hmm. Donc le projet, on est vraiment dans la restitution des graines et vous aussi, vous pourriez pourquoi pas en lire de temps en temps à la radio. Il peut y avoir. Je sais qu'il y a un projet d'émission de radio. Je sais pas si.
Oui, sur la radio, on pourra écouter les graines de mémoire lues par les habitants.
Voilà.
De Persan.
Donc on va proposer à des habitants mm-hmm. de faire un travail de lecture, de mise en musique peut-être aussi. On mm-hmm. pourra faire un spectacle, on verra.
En tout cas, merci beaucoup d'être venu au studio d'Alternative FM, nous parler de votre travail, de ce projet très important mené sur la ville de Persan. Merci les filles d'être venues pour cette émission spéciale dans les voies de l'égalité avec notre invité Ludovic Souliman, qu'on retrouvera sur la ville de Persan à partir du mois de mars. Les filles, on se retrouve vendredi pour votre direct. Ludovic, à très bientôt. Et restez à l'écoute de votre radio locale. Il est 17h passé de deux petites minutes.
Évidemment, il ne s'agissait là que d'expériences sonores.
Les voix de l'égalité.